Une question, alors j'espère que j'aurai plus de succès qu'Onésime, parce que je vous invite à répondre à voix haute. Nous trouvons dans la Bible beaucoup de noms et de titres donnés à Jésus. Certains sont fréquents, d'autres moins. Quel est, selon vous, le nom ou le titre qui dit ou décrit le mieux la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Le Messie. Le Messie, je le répète pour l'enregistrement. Le Sauveur, serviteur, Emmanuel, Jésus-Christ. Seigneur, Jésus-Christ. Oula, oula. Il y en a que je n'ai pas entendu. Prince de la paix,
admirable.
Le véritable,
Dieu puissant,
ressuscité. Alors on va s'arrêter parce que celui que je voulais entendre a déjà été cité. En préparant, j'ai vite noté moi-même ce qui me venait à l'esprit. Fils de Dieu, agneau de Dieu, Seigneur des Seigneurs, le juste, le saint. Alors, il y en a qui ont été dit, Emmanuel, l'homme de douleur, le Messie, le bon berger, le lion de Juda, le fils de David, étoile brillante du matin, la porte, le chemin, le prince de la paix. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Parmi tous les titres et les noms donnés à Jésus, prince de la paix est sans doute un des plus connus, et sans doute aussi un des plus parlants. Il a été cité, j'en suis bien heureux parce que ça me permet d'enchaîner comme je prévoyais de le faire. Un titre qui résume bien la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus, le prince de la paix. Déjà le prophète Ésaïe avait annoncé la venue de ce prince de la paix dans un texte très connu que nous citons et que nous lisons généralement à la période de Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de la paix. Cette annonce d'un Messie qui apportera la paix n'est pas unique et va se retrouver dans différents autres textes des prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que tout naturellement, au moment de la naissance de Jésus, après l'annonce faite aux bergers, la multitude céleste a chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Paix parmi les hommes, car le prince de la paix était né, était venu sur terre, était maintenant parmi les hommes. C'est ainsi que, quelques années plus tard, Jésus dira un jour à ses disciples, peu de temps avant de les quitter, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » Jésus, le prince de la paix, est venu apporter la paix. La paix aux hommes, la paix avec Dieu, la paix de Dieu, sa paix. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a un mais. Il y a Matthieu chapitre 10, verset 34. Et là, nous sommes troublés, déstabilisés, parce que tout ce que nous avions compris concernant le prince de la paix semble s'effondrer avec ce verset, semble remis en question, au point que nous demandons, nous finissons par nous demander ce que Jésus est finalement venu apporter. Je vous invite à considérer cette nouvelle parole surprenante de Jésus dans le cadre de notre série sur les paroles difficiles de Jésus, parfois difficiles à comprendre, parfois difficiles à obéir. Le texte donc se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Je lis les versets 34 à 39. Et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Matthieu 10, versets 34 à 39. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quoi ? Jésus n'est pas venu apporter la paix ? Mais je croyais qu'il était le prince de la paix. Je croyais qu'il était entre autres venu pour ça. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle paix est-il question ici ? De quelle épée parle Jésus ? Comment faut-il comprendre cette contradiction en apparence ? Certains auraient-ils raison de dire que la Bible se contredit ? J'aimerais commencer à répondre à ces questions en écartant trois fausses pistes. La première fausse piste est qu'en apportant la paix, le prince de la paix serait venu éradiquer toutes les guerres et tous les conflits dans le monde. Il serait venu instaurer la paix dans le monde. C'est vrai à terme. Ce sera vrai dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, là où la justice habitera. Ce sera vrai quand Jésus reviendra pour établir son règne éternel de paix. Mais pour l'heure, il y a encore et toujours des guerres et des bruits de guerre qui ne cesseront pas tant que les premières choses n'auront pas disparu, qui ne cesseront pas tant que le péché règnera dans ce monde, qui ne cesseront pas tant que Jésus ne sera pas revenu. La paix que Jésus est venu apporter dans le monde n'est pas l'absence de conflit. Du moins pas dans l'immédiat, comme nous venons de le rappeler. Il nous faut chercher dans une autre direction. La paix que Jésus est venu apporter, c'est la paix avec Dieu. C'est la réconciliation entre le Dieu trois fois saint et l'homme pécheur. Cette réconciliation rendue possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. C'est aussi, bien évidemment, la paix entre les hommes, pour autant qu'ils soient au préalable en paix avec Dieu. Et même dans ce cas de figure-là, la chair étant toujours présente, les conflits ne sont potentiellement jamais bien loin. La deuxième fausse piste que j'aimerais écarter concerne l'épée dont parle Jésus. En apportant l'épée, Jésus serait venu faire la promotion de la violence. Ce serait bien mal connaître l'évangile, les évangiles, et bien mal connaître Jésus et son enseignement que d'arriver à une telle compréhension des choses. Jésus n'a jamais appelé à la violence, sous aucune forme que ce soit. Quand Pierre a dégainé son épée pour le défendre dans le jardin de Gethsémané, qu'a fait Jésus ? Qu'a dit Jésus ? L'a-t-il encouragé à poursuivre son action ? Il a dit à Pierre de rengainer son épée. Alors Jésus lui a dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Loin d'appeler ses disciples à la violence, Jésus les a appelés à aimer leurs prochains. Il les a appelés à aimer même leurs ennemis. Il les a appelés à prier pour leurs ennemis, à ne pas répondre au mal par le mal, mais par le bien, à ne pas résister aux méchants, à pardonner à celui qui se repent. Il est impossible pour un lecteur sérieux des évangiles de penser que Jésus fait ici la promotion de la violence. Lui qui a déclaré heureux les artisans de paix. Lui, comme le dit l'apôtre Pierre, qui quand il était insulté ne rendait pas l'insulte, quand il souffrait ne proférait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Toute sa vie, Jésus a fait la promotion du bien, du juste et du pur. Toute sa vie, il a refusé la violence. Toute sa vie, il a enseigné la tolérance, l'amour et le pardon. Mais pour finir avec cette deuxième fausse piste, il faut que nous disions maintenant quelques mots sur un épisode des évangiles qui semble contredire ce que je suis en train de dire. C'est l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. Certains affirment que Jésus a fait là usage de la violence. Que faut-il en penser ? Comment comprendre ce que Jésus a fait ce jour-là dans le temple ? Était-ce de la violence ? Nous lisons les deux versets dans l'évangile de Matthieu qui en parlent. Matthieu chapitre 10, verset 21. Chapitre 21, pardon, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là dans le temple, il faut tout d'abord avoir à l'esprit la disposition du temple. Il faut bien visualiser ce temple. La scène dont que nous venons de lire le récit, quand Jésus chasse les vendeurs du temple, se passe dans la cour dite des païens. Ici, là c'est le temple à proprement parler avec le lieu saint, très saint, etc. La cour des païens ou le parvis des païens. Et les non-juifs, les païens n'avaient accès qu'à cette partie-là du temple. Et c'est là, dans cette partie de la cour des païens, que se trouvaient les vendeurs et les changeurs dont parle notre texte. Les changeurs parce qu'il y avait une monnaie du temple et que la monnaie profane devait être changée pour pouvoir acquérir la monnaie du temple qui ensuite pouvait être utilisée pour les offrandes. Notons que cette cour des païens, ce parvis des païens, était séparé de l'autre partie du temple par un mur qui est matérialisé, enfin qui est ici sous forme de pointillé. C'était un mur. Il y avait des portes, mais un mur qui barrait l'accès du reste du temple aux païens. Un mur de séparation que les païens, les non-juifs, ne pouvaient pas franchir sous peine de mort. Et d'ailleurs, il y avait dans le temple des inscriptions en grec et en latin pour que tout le monde puisse comprendre qui rappelait le risque de mort pour le non-juif qui franchirait ce mur de séparation. L'expression mur de séparation doit tout de suite vous faire penser à un texte du Nouveau Testament. Et effectivement, c'est de ce mur-là de séparation dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2. Et il parle de l'œuvre de la croix comme de la destruction du mur de séparation. Vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, dit-il, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Quelques versets plus loin, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Par Jésus, par son œuvre, parce qu'il est notre paix, juifs et non-juifs sont devenus un. Le mur de séparation a été détruit, aboli, de telle sorte que les deux maintenant peuvent s'approcher de la même manière du trône de la grâce. Le mur de séparation a été détruit. Revenons à notre question. Pourquoi Jésus a-t-il chassé les vendeurs et les changeurs de cette cour des païens? Était-ce de la violence? L'explication la plus courante est celle de la purification. En entrant dans le temple, Jésus est entré dans sa maison, qui aurait dû être, le texte le dit au verset 13, une maison de prière, et qui s'est trouvée être une caverne de bandits. Alors Jésus a fait le ménage. Il avait à cœur l'honneur de Dieu, l'honneur de son Père, et il a débarrassé le temple de ce qui le souillait. Si cette compréhension est juste, et elle est juste, elle n'est cependant pas suffisante. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut faire le lien avec certains textes de l'Ancien Testament. Je ne vais en lire qu'un par manque de temps, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 56, versets 6 à 8. Quant aux étrangers, c'est-à-dire aux païens, qui s'attacheront au Seigneur, afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom du Seigneur, au point de devenir ses serviteurs, tous ceux qui observeront le sabbat en se gardant de le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai dans ma montagne sacrée et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur Dieu. Qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Que dit Ésaïe ici? Il dit et il annonce avec d'autres textes de l'Ancien Testament que dans les temps messianiques, quand le Messie viendra, même les étrangers, même les païens seront acceptés dans le temple, qui sera devenu une maison de prière pour tous les peuples. C'est l'annonce d'un salut pour tous, pour tous les peuples, pour les juifs et pour les non-juifs De la même manière, au temps de Jésus, les païens n'avaient que la cour des païens pour prier, pour s'approcher de Dieu. Et voilà que cette cour était occupée, monopolisée, bloquée par les vendeurs et les changeurs. Et ils empêchaient par leur présence et leur commerce les païens de l'utiliser pour la prière. En chassant les vendeurs et les changeurs, Jésus a rendu cette cour aux païens. Et il leur a permis à nouveau de prier, de s'approcher de Dieu. Ce n'est donc absolument pas un acte de violence que Jésus a accompli ce jour-là dans le temple, mais un acte symbolique très fort, qui dit l'accueil des païens par Dieu, qui dit que Dieu est accessible à tous, aux juifs et aux non-juifs. Alors bien sûr, Jésus y a mis les moyens. C'était un peu musclé. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, parce que ce qui est en jeu, c'est l'œuvre du salut. C'est l'accomplissement du salut pour tous les peuples. C'est la destruction à terme du mur de séparation entre les non-juifs et les juifs. Il n'y a donc rien dans les évangiles qui corroborerait l'idée que l'épée que Jésus est venu apporter serait physique, réelle, que Jésus serait une sorte de révolutionnaire qui appellerait ses disciples à prendre les armes. Ça existe, hein, comme compréhension des choses. L'épée dont il est question dans notre texte n'est pas la promotion de la violence, et encore moins la justification de la guerre, des croisades, de l'inquisition, pour ne citer que quelques cas historiques où cette épée était bien utile pour justifier certaines choses. Ce n'est pas pour ôter des vies que Jésus est venu, mais pour donner la sienne. Sa révolution, si on peut parler avec ce terme-là pour Jésus, est celle des cœurs, jamais celle des armes. Et nous arrivons maintenant à notre troisième fausse piste que je voudrais écarter, qui concerne la famille. Jésus demanderait à ses disciples de couper les ponts avec leur famille, de ne pas les aimer. Quand il dit au verset 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus a souvent exprimé son souci de la famille. Il a valorisé l'institution du mariage face au divorce. Il a dénoncé l'adultère. Il a rappelé le respect des enfants dû à leurs parents. Ajoutez à ce qu'il a dit concernant l'amour du prochain, il est simplement inconcevable qu'il dise ici le contraire. Non, Jésus ne demande pas à ses disciples de ne pas aimer leur famille. C'est tellement gros que je ne développe pas plus. Après avoir écarté ces trois fausses pistes, Jésus qui serait venu instaurer la paix dans le monde, Jésus qui ferait la promotion de la violence et Jésus qui inviterait à ne pas aimer sa propre famille, il est temps de dire ce que dit notre passage. Comme nous l'avons déjà évoqué, la paix que Jésus est venu apporter, c'est premièrement la paix avec Dieu et non pas la paix dans le monde. C'est premièrement la paix avec Dieu et non pas la paix au sein des familles. C'est ici qu'il est question de l'épée. L'épée dont parle Jésus au verset 34 est clairement une métaphore. De quoi ? Une métaphore de la division qu'amène l'Évangile. Et il faut préciser les choses. La division qu'amène l'Évangile, c'est-à-dire l'épée dans notre texte, n'est pas le cœur de l'évangile, mais sa conséquence. Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu et décide de suivre le Christ, il arrive qu'il soit rejeté, il ou elle, pour sa foi, à cause de sa foi. Il arrive que ses amis se détournent de lui. Il arrive que ses voisins lui tournent le dos. Il arrive même parfois que ces choses se passent au sein de sa propre famille. Et pour parler de cela, Jésus va citer quelques versets du prophète Michée. Il se trouve dans le verset 35 à 36. Et dans le texte du prophète Michée, je ne rentre pas dans les détails, les conflits terribles dans les familles dont il est question sont symptomatiques de la condition pécheresse du peuple à l'époque du prophète. Et quand Jésus reprend ces paroles du prophète Michée, elles deviennent symptomatiques du rejet de l'évangile et de ceux qui l'acceptent. Mais il faut bien comprendre ici que cette division, parfois même au sein des familles, n'est pas l'objectif de la venue de Jésus, mais une conséquence directe, indirecte de celle-ci. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que les ténèbres rejettent la lumière. Même Jésus a expérimenté cela au sein de sa propre famille. C'est donc bien la paix avec Dieu que Jésus est venu apporter dans ce monde, mais parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière et parce qu'elles rejettent la lumière, c'est aussi une épée qu'il est venu apporter. Une épée qui divise, qui sépare le croyant des autres et parfois même au sein de sa propre famille. Nous connaissons sans doute tous directement ou indirectement cette situation. Et je suis sûr que si nous prenions le temps de nous écouter les uns les autres, il y aurait beaucoup de choses que vous pourriez dire à ce sujet. Si nous ne vivons pas cette situation personnellement, nous connaissons peut-être tous des chrétiens qui souffrent de ce rejet-là. Il est vrai que nous sommes relativement gardés de cela en Occident, où le christianisme a encore pignon sur rue. Mais nous savons par exemple que quand un musulman se convertit en terre d'islam et parfois même en Occident, quand il se tourne vers le Christ, je prends l'exemple de l'islam, mais c'est vrai dans l'hindouisme, c'est vrai dans beaucoup d'autres religions, il est très souvent ostracisé, rejeté, persécuté et parfois même tué. Et quand il n'est pas tué, il est souvent considéré comme mort pour sa famille. Il ou elle, parce qu'il s'est tourné vers le Christ, n'existe plus pour les siens. Ce rejet dont parle Jésus ici n'est bien sûr pas quelque chose que nous devons rechercher. Parfois, inconsciemment, nous pouvons chercher à provoquer ce rejet parce qu'il viendrait d'une certaine manière confirmer que nous sommes sur le bon chemin. Attention à ne pas manquer de sagesse. Quand nous témoignons, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour témoigner, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour prier. Mais même quand nous agissons avec sagesse, il arrive parfois que nous soyons rejetés pour notre foi, que nous soyons rejetés parce que nous suivons le Christ et que nous l'avons partagé, parce que sa lumière en nous dérange les ténèbres autour de nous. Et quand cela arrive, alors il y a souvent un choix à faire. Un choix, et c'est ce dont parle Jésus ici au verset 37. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce que Jésus dit ici, c'est que quand il y a un choix à faire entre suivre le Christ ou suivre les siens, c'est l'amour du Christ qui doit prévaloir. Suivre le Christ, c'est choisir de l'aimer plus que tout et plus que tous. C'est le placer au-dessus de tout et au-dessus de tous. Jésus demande cet amour prioritaire. C'est le sens du verset 37. C'est aussi le sens du test de foi que Dieu a fait subir à Abraham quand il lui a demandé de sacrifier son fils unique. J'ai connu quelqu'un dans mon ministère pastoral qui s'est converti, qui s'est fait baptiser, mais qui n'a jamais osé dire à un membre de sa famille qu'il était devenu chrétien, par peur d'être rejeté. Et cette personne a vécu dans son église pendant plusieurs années, une vie chrétienne en apparence normale, mais une vie d'église cachée à sa famille, jusqu'au jour où la tension de cette double vie est devenue insupportable, ingérable. Alors cette personne a décidé de quitter l'église. Elle s'est raisonnée en disant qu'elle pouvait conserver la foi en restant chez elle, en suivant le Christ dans son cœur et en continuant à ne pas le dire à sa famille. Quand il a fallu choisir entre Christ et sa famille, cette personne a choisi sa famille. Cette situation reste pour moi une des situations les plus tristes qui m'ait été donnée d'accompagner dans mon ministère pastoral. Je n'évoque, comprenez-moi bien, pas du tout cette situation pour condamner cette personne, mais pour souligner la réalité du choix, des choix qu'il faut parfois faire. Et puis, j'évoque cette situation d'un point de vue, du point de vue de quelqu'un qui a grandi avec des parents chrétiens et qui ne sait donc pas ou très peu ce que veut dire être rejeté par les siens pour sa foi. Je le redis, nous devons aimer nos familles et continuer à le faire même si elles nous rejettent. Aimer le Christ et le suivre ne veut pas dire que nous devons rejeter les nôtres. Vous connaissez ce texte que Paul écrit à Timothée et il dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Oui, nous devons prendre soin des nôtres. Et Jésus ne dit certainement pas le contraire. Mais quand il faut choisir entre le Christ ou ma famille, c'est l'amour du Christ qui doit être le plus grand. Notre loyauté à Jésus-Christ doit être plus grande que toutes les autres. À ce sujet, les paroles de Jésus qui précèdent notre passage et que nous n'avons pas encore lues sont très fortes. Jésus dit « Qui donc se reconnaîtra en moi devant les gens ? Je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Suivre le Christ est exigeant. Suivre Jésus peut amener à vivre des choses difficiles, des moments exigeants, des pertes de relations, des épreuves, des souffrances. Il y a souvent un prix à payer pour suivre le Christ. Il y a souvent une croix à porter pour suivre le Christ. Mais je ne rentre pas dans l'explication de cela, de cette croix à porter de la persécution, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Suivre le Christ, c'est donc accepter tout cela par amour pour lui. Et comme le dit Jésus au verset 39, c'est accepter de perdre sa vie. C'est accepter de perdre sa vie. Mais il ajoute, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Il y a un prix à payer. C'est exigeant, nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existait pas, c'est Jésus qui l'a dit. Il l'a non seulement dit, mais il veut aussi nous donner la grâce nécessaire pour pouvoir le vivre, pour pouvoir vivre cette vie à laquelle il nous appelle. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants de silence.